Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 221. Émission musicale centrée sur les musiques, les peuples et leur histoire. Diffusion sur RDWA le lundi à 21h, rediff le jeudi à 10h et sur Radio Saint-Ferréol le dimanche à 13h. Pour rappel, toutes les émissions depuis 2011 sont podcastables sur le site internet de la radio du DIWA à la rubrique émission musicale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet musical et historique jusque-là peu abordé, c'est-à-dire l'impact des Jamaïcains d'origine chinoise dans la musique de l'île du Mento au reggae. Je suis tombé sur cet article très intéressant de Jérémy Younes sur le site killerswithoutfillers.wordpress.com. Je mettrai le lien sur le site intitulé « Ces Chinois qui ont fait le reggae ». Je me suis basé en grande partie sur son article et puis sur différents autres trucs qui traitent de l'histoire de l'immigration chinoise dans les Caraïbes. On croise en effet sur beaucoup de disques jamaïcains des noms à consonance asiatique tels que Kong, Lee, Hukim, Chen. On n'y fait pas trop gaffe, mais à force de les voir s'accumuler et de relever l'importance des artistes ou producteurs qui les portent, on finit par s'interroger sur l'influence de la communauté chinoise sur l'évolution de la musique jamaïcaine. Eh bien, après avoir farfouillé à travers cet article et d'autres qui traitent du sujet, je dirais que la communauté asiatique et tout particulièrement chinoise a eu une influence énorme, voire capitale. Je suis tombé sur le cul en lisant un à un les noms de ces chanteurs, producteurs ou musiciens qui sont issus de cette minorité. On va traiter ce sujet en deux émissions par le biais de quelques grands noms de la scène musicale jamaïcaine qui possèdent une origine chinoise proche ou lointaine, la créolité étant passée par là. Premier morceau du jour en plein dans le thème, le tromboniste Don Drummond avec les Scatalites sur le morceau Chinatown. C'est parti, à toutes. Comme très souvent dans ce type d'approche historique, par remonter le temps. Il semble y avoir eu plusieurs vagues d'immigration chinoise vers la région caribéenne. La première, dès le début du 19e siècle, concernait des ouvriers sous contrat amenés dans la Caraïbe, principalement dans l'île de Trinidad, à Cuba et en Guyane britannique, pour travailler sur les plantations sucrières pendant la période post-esclavagiste. La première expérience caribéenne d'une main-d'œuvre chinoise fut menée en 1806, quand à peu près 192 immigrants chinois arrivent dans l'île de Trinidad à bord du bateau Fortitude. Cette première tentative échoua puisque les taux de mortalité et d'abandon de la plantation furent très élevés. L'immigration chinoise pendant la période suivant l'abolition de l'esclavage dura des années 1850 à l'année 1866. Approximativement 18 000 Chinois arrivèrent dans la Caraïbe à cette époque-là, le plus souvent dans des conditions misérables. Ces ouvriers sous contrat s'engagèrent pour des périodes de 3 puis de 5 ans, sans aucune possibilité de rapatriement vers la Chine. Deuxième morceau du jour, celui d'un inconnu nommé Stephen Cheng, Always Together, sous-titré A Chinese Love Song, une romance très populaire en Chine qui devient en Jamaïque un rocksteady langoureux chanté en mandarin sur une rythmique assurée par les Dragonaires de Byron Lee. Le morceau date de 1967, Stephen Cheng. Deuxième vague de départ de la Chine vers la Jamaïque consistait en migrants volontaires venus en petits groupes, généralement des parents en Guyane britannique, à la Jamaïque ou à Trinidad entre les années 1890 et les années 1940. Les membres de la communauté chinoise actuelle de la Caraïbe sont les descendants de ce dernier groupe. Très vite, et ce dès 1890, une bonne partie de ces Chinois parvient à s'extirper de sa condition d'exploité. En clair, ils sortent des plantations et ouvre des petits commerces, épiceries, cordonneries, quincailleries, marchands de glace et autres petits commerces. Cette nouvelle position sociale combinée à l'implantation géographique des Chinois dans l'île explique pour une bonne part le rapprochement avec certains représentants de la communauté de la musique. Contrairement aux autres minorités de l'île, comme les Syriens, les Libanais ou les Juifs, les quelques 3000 Chinois ne se sont pas regroupés dans des quartiers spécifiques, ce qui est plutôt rare pour être noté. De ce fait, ils se sont fondus dans la population jamaïcaine et ont engendré plusieurs générations de Chinois jamaïcains. À la fin des années 50, l'industrie musicale est balbutiante, mais la musique populaire sent trop fort le ghetto pour intéresser les notables jamaïcains. La place est donc libre pour notre classe moyenne de travailleurs chinois. On écoute un standard de des sons qui a influencé le rythme blues jamaïcain, Johnny Watson, Getting Drunk. C'est parti, à toutes.
I'm getting drunk, I'm getting high, and here's the reason why. My baby, ooh, she left me, she didn't even say goodbye. Yeah, she's been gone ever since the week before last. Got so high from this same glass. I'm getting drunk, ooh, because baby's gone away.
L'un des premiers à s'illustrer sera un quincailler sino-jamaïcain, Thomas Wong, fondateur de Tom the Great Sebastian, ni plus ni moins le tout premier sound system jamaïcain fondé à la fin des années 40. Pour éviter de payer des bandes entières de musiciens, Tom Wong se met à jouer des disques de rhythm and blues glanés en Amérique sur de grosses enceintes qu'il modifie lui-même et pose dans la rue. Il invite Con Machuki pour animer ses soirées avant-gardistes. La suite, on la connaît. La culture des sound systems qui va rythmer la vie des Jamaïcains et se propager à travers le monde. Une importance capitale donc que ce Thomas Wong, fondateur du premier sound system. On poursuit avec un autre morceau de Johnny Watson, Hot Little Mama.
You send those heat waves up and down my spine. You got a small waistline and your hips set way out, and the whole fire department can't put you out. You my hot little mama. You my hot, yeah, yeah, little mama. You my hot little mama. And you really set me afire. Mama really makes me alarm. Child, you do more damage than the whole H bomb. You my hot little mama. You my hot, yeah, yeah, little mama. You my hot little mama. And you really sets me afire. Well, my hot little mama, just like TNT. If I take you to the beach, you would dry up the whole sea. You're my hot little mama. Yeah,
Hot Little Mama, parmi probablement des morceaux passés dans ce premier son système jamaïcain. Tom the Great Sebastian, initié par l'homme Thomas Wong. Deuxième à l'honneur, Leslie Kong. Au début des années 60, la famille Kong, Leslie et ses deux frères, tient un commerce fourre-tout sur Orange Street. Un glacier disquaire qui s'appelle le Beverly's. Très vite, Leslie se passionne pour les disques qu'il vend et aménage un studio au-dessus de la boutique de glace. Commence alors la glorieuse histoire du label Beverly, difficile de rendre grâce en quelques lignes à l'importance du catalogue qu'il produira entre 1961 et 1971 à sa mort. Mais on peut évoquer par exemple ses collaborations avec Desmond Dekker qui signe chez lui une chanson inspirée du docteur Fu Manchu, un personnage de fiction asiatique inventé par le romancier Sax Rohmer. On écoute cette chanson, Fu Manchu, Desmond Dekker and the Aces. Desmond Dekker qu'on vient d'écouter, autre artiste de renom enregistré par Leslie Kong, citons The Maytals, Jimmy Cliff ou Bob Marley et ses Wailers dont il produit les deux premiers singles. Son studio Beverly a eu une grosse influence, en témoigne la longue liste de tubes qui sont sortis de chez lui. On s'en écoute deux autres, le morceau Caution de Bob Marley et The Wailers et un classique Night and Day de Maytals. À toutes.
I'm
Beatles, Night and Day, enregistré dans le studio de Leslie Kong. On va parler maintenant de Patricia et Vincent Chin, les deux premiers protagonistes de la dynastie reggae des Chin à la fin des années 50. Vincent est réparateur de jukebox, de ce poste d'observation privilégié de la musique. Lui vient l'idée de profiter plus directement du succès des disques qu'il voit défiler dans la machine qu'il bricole. Ainsi, en 1959, il ouvre avec sa femme Patricia un premier magasin qu'il nomme Randy's. Très vite, en 1960, il utilise Federal, l'un des seuls studios alors établis sur l'île, pour s'essayer à la production. Lors de sa première session, il enregistre entre autres Benny and Skeeter et Rico Rodriguez. Le magasin déménage ensuite et devient une incontournable plaque tournante des 45 tours. Ils poursuivent leur travail de production dans le studio au premier étage, enregistrant les meilleurs chanteurs et musiciens de l'île. Don Drummond, Lord Creator, Ken Booth, Alton Ellis, Stranger Call ou encore The Gay Lads. Les plus grands producteurs de l'île utilisent aussi le studio Randy's. Plus tard, émigré aux États-Unis, le couple crée VP, qui est encore aujourd'hui le plus énorme et incontesté producteur et distributeur de musique caribéenne. Leur fils Clive Chin est lui aussi actif à Randy's dès les années 70. On écoute quelques titres enregistrés dans ce célèbre studio Randy. On reste dans la période ska avec Lord Creator Passing Through et Alton Ellis avec le morceau Ska Beat. À toutes.
Just a lonely traveler, and I'm just passing through. I've broke many, many hearts before, and will do the same to you. As much as you might care for me, and I might care for you. Oh, little darling, can't you see that I'm just passing through? Traveled on around this world to see what I can find. But all I've ever found of my love is no peace and a worried mind. If I should chance to settle down and you are still around, my darling, I'll come back to you. But for now I'm passing.
C'était Alton Ellis, K-Beat à la recherche du groove perdu, session 221. Première des deux émissions consacrées à l'influence de la communauté chinoise sur la musique jamaïcaine. On va s'intéresser maintenant à Byron Lee, un pionnier de la musique jamaïcaine, puisque dès 1957, avec quelques acolytes comme Baba Brooks ou Lester Sterling, il fonde The Dragonaires, groupe dont il est le leader. Avec cette formation, Byron Lee va d'abord backer quelques prestigieux artistes américains tels que Sam Cooke, Ray Charles ou Chuck Berry. Lors de leur tournée caribéenne, le groupe fait même en 1962 une courte apparition dans James Bond versus Dr. No et est envoyé en 64 aux USA pour défendre la naissante musique folklorique jamaïcaine et notamment le ska. À la fin des années 60, avec l'éclosion du reggae, Byron rachète à Edward Siga le studio West Indies Records Limited qu'il rebaptise Dynamix. Il produit notamment Toots and the Maytals, The Blue Busters, Eric Monty Morris, Johnny Nash. Comme artiste, rien de bien original en revanche, car il s'est contenté d'aligner des reprises en mélangeant reggae, funk et surtout soca. À partir des années 70, on écoute le morceau Kingston Calypso qui apparaît dans le film de James Bond. Et ensuite, il y aura un standard, une reprise Carrie Go Bring Home, Byron Lee and the Dragonaires.
Here they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice. Here and there, three blind mice everywhere, searching all around for the cat. All over Kingston town, pit-a-pat, they got the carving knife to cut the pussycat's life. The puss will get that knife for trifling with three blind mice. So beware, three blind mice, watch your step. Three blind mice, deadly mice. Three blind mice, where they go? Three blind mice, what they do? Three blind mice, oh the mice. Three blind mice, deadly mice.
Byron Lee, Justin Yap, qui n'a pas fait long feu dans la musique jamaïcaine à peine quelques années, de 62 à 1965, avant d'émigrer comme beaucoup de sino-jamaïcain pardon, aux States, mais les quelques disques qu'il laisse derrière lui sont tout simplement mythiques. En novembre 1964, Justin Yap loue Studio One à Coxon pour toute une journée et toute une nuit. Il s'enferme dans le studio avec les Scatalites et il passe 18 heures d'affilée. C'est pendant cette interminable session que sont enregistrés bien des titres cultes du groupe phare de la période ska comme Ringo ou Confucius. On s'écoute ces deux morceaux. C'est parti. Dans les années 60, The Mighty Vikings est certainement celui où sévissent le plus de Sinois jamaïcains. Sur les trois chanteurs du groupe, deux sont des Wong, Sonny et Victor, le bassiste Phil Chen, musicien réputé de session, n'est lui non plus jamais très loin. Les Vikings comptent également dans leur rang des personnages tels que Derek Harriott ou Hux Brown et remportent en 1963 le titre de meilleur ska band de l'île. Ils se produisent principalement dans les hôtels et clubs de Kingston, ce qui explique pourquoi leur trace discographique n'est pas énorme. On écoute le morceau Maggie Don't Leave Me de Mighty Vikings.
Mmh. don't leave me. Come share my throne. I'm begging you, darling, don't leave me alone. Don't leave me, baby. I couldn't go on. Though I'm a king without love, ain't no good on a throne. Oh, Maggie, I'm crying, I'm on my knees. Believe me, I'm dying. Oh, can't you see? Oh, Maggie, don't leave me. Come share my throne. Though I'm a king without love.
The Mighty Vikings et Victor Wong, encore un Wong, celui-ci s'appelle Dickie Wong, est le propriétaire d'un club sur Red Hill Road, le Tit for Tat. C'est dans ce club que se fonde l'une des premières formations déterminantes du reggae, les Skin, Flesh and Bones, réunissant des musiciens comme Sly Dunbar, Lloyd Parks à la basse ou Ronchi McLean à la guitare, grosso modo une préfiguration des Revolutionaries, pardon, c'est difficile à dire. Sur le label du même nom que son club, Tit for Tat, Dickie Wong édite une grosse dizaine de 45 tours, principalement des bonnes reprises de titres américains, et obtient quelques hits majeurs comme la reprise par Al Brown de Eli the Baby de Al Green. C'est le prochain morceau, Al Brown.
Deep.
À la fin des années 60, Herman Chin Loy et son demi-frère Lloyd ouvrirent Aquarius Record Store sur Halfway Tree à Kingston. L'histoire est semblable à celle de Leslie Kong ou Vincent Chin au-dessus de la boutique familiale. Ils aménagent avec l'aide d'un ingénieur gallois le premier studio 24 pistes de Lille. C'est ici qu'Herman découvre Horace Swaby et le baptiste du nom générique qu'il donnait alors à tous ses claviéristes, Augustus Pablo. Il est de fait pour beaucoup dans la popularisation du mélodica sur les disques jamaïcains. On doit notamment à Herman et son Aquarius l'énorme Arise Black Man d'Alton Ellis, et il a aussi produit des albums à son nom comme ce disque de 1971 Aquarius Dub. C'est parti pour les productions de l'homme Herman Chin Loy. Artistes fondamentaux de cette scène reggae jamaïcaine, les frères Chung, qui commencent leur carrière en pleine fièvre rocksteady et forme avec Lennox Robinson The Minstrels Group, à qui l'on doit notamment le morceau So Weary. Mikey à la guitare et Geoffrey au clavier, ils fondent The Now Generation, l'un des plus importants bands de studio des années 70. Dès 72, ils travaillent pour tous les producteurs et figurent sur un nombre incalculable de productions. Herman Chin Loy, justement, est l'un des premiers à utiliser le groupe en session. Glenn Brown, Bunny Lee, Scratch Perry, Harry Muddy, Lloyd Chalmers ou encore Derek Harriott profiteront eux aussi du son des Frères Chung. On les retrouve ici en backing band des Heptones avec le morceau Hypocrite. Cette première émission consacrée à l'influence de la communauté chinoise sur la musique jamaïcaine. Pour la suite, ce sera la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pourrez réécouter l'émission le jeudi à 10h sur RDWA, à 13h le dimanche sur Radio Saint-Ferréol, ou encore, ça fait pas longtemps, sur la web radio Traffic to Rock. Bonne semaine, c'était à la recherche du groove perdu. Ciao.